Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Elles ont osé, proposé par Les Échos. Elles ont osé et cela a tout changé, pour elles et autour d'elles. Chaque mois dans ce podcast, notre invitée partage ses petits pas, les moments clés de son chemin pour aller toujours plus loin, pour être à sa juste place, guidée par son envie de contribuer à un monde meilleur. Elle nous présente également une femme qui l'a inspirée et dont le portrait sera réalisé par le journaliste des Échos, Yves Villaginès. Merci d'être avec nous. Je suis Marie-Éloi, présidente de Femmes des Territoires pour créer son entreprise, Bouge ta boîte, réseau business féminin, et Bouge ton groupe pour accélérer l'égalité professionnelle dans les entreprises et les administrations. Si comme moi, ces échanges vous donnent des ailes, je vous invite à vous abonner et à partager le podcast sur les réseaux pour inspirer le plus grand nombre. Aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir Nathalie Collin, directrice de la branche grand public et numérique du groupe La Poste, qui compte 50 000 salariés et 35 000 points de vente.
Bonjour Marie.
Bonjour Nathalie. Alors vous avez un parcours hors du commun, car avant La Poste, vous avez dirigé de grands groupes dans le secteur de la musique, comme Virgin ou EMI.
Oui.
Puis de la presse avec Libération ou Nouvel Observateur. À chaque fois, vous avez été l'outsider, celle qu'on n'attendait pas, qui s'est retroussé les manches, a redressé et transformé l'entreprise. Et au-delà de la transformation digitale et économique, vous êtes très engagée sur des causes qui me sont chères, l'égalité femmes-hommes, les inégalités, et notamment la fracture numérique, et l'importance des territoires. Nathalie, vous avez grandi à Nogent-sur-Marne avec une maman qui travaillait à La Poste, on disait PTT à l'époque.
Absolument.
C'est incroyable, non, de vous retrouver à la tête de la branche grand public et numérique de La Poste aujourd'hui.
Oui, je pense que c'est le fruit du hasard, très franchement, mais c'est un joli retour sur l'histoire, d'autant plus que mon arrière-grand-père était receveur des postes au centre de la Corse. J'ai eu l'occasion d'ailleurs d'aller dans ce bureau de poste il n'y a pas très longtemps.
Incroyable, vous avez des origines corses et catalanes, c'est ce que j'ai vu aussi. Le premier moment clé de votre parcours, vous êtes titulaire d'une maîtrise de droit des affaires et fiscalité. Et vous voulez aller plus loin, vous rêvez d'étudier à l'ESSEC, l'école de commerce, et vous avez décidé que rien ne vous arrêterait. Est-ce que vous pouvez nous partager ce moment clé, Nathalie ?
Oui, en fait, en réalité, j'étais très heureuse dans mes études de droit, mais quand j'ai commencé à chercher un stage, comme font tous les étudiants, je me suis rendu compte que c'était difficile. Et que finalement, si on n'avait pas fait une grande école, c'était plus compliqué. Donc j'ai commencé à regarder ce que je pouvais passer comme concours. J'ai vu qu'il y avait le concours des grandes écoles de commerce. Donc j'ai préparé en premier. Celui qu'on passait en premier, c'était celui de l'ESSEC, chronologiquement. Et je l'ai donc passé sans trop me poser la question du « après ». Je l'ai eu. Et puis je me suis rendu compte que c'était très cher de faire une école de commerce. Et qu'il me fallait, à l'époque, c'était à peu près 50 000 francs, ce qui était beaucoup, beaucoup d'argent dans les années 85. Et donc j'ai commencé à regarder un peu autour de moi, dans ma famille, et très franchement, je ne pouvais pas vraiment être aidée. Et donc je ne me suis pas dégonflée, quelque part. J'ai poussé la porte d'une banque, et je leur ai expliqué, et j'ai eu mon prêt, et ça s'est très très bien passé. Et je n'ai absolument pas pensé à comment je rembourserais ce prêt, ou comment j'aurais un travail derrière, ou comment ça se passerait, mais ça s'est bien passé.
Vous en aviez parlé autour de vous, que vous alliez faire ce prêt, ou vous vous êtes dit, allez, je rentre dans une banque, c'est logique, il faut que je fasse un prêt ?
Maintenant, je l'ai fait toute seule, puisque je n'avais pas de solution, je suis allée chercher une solution. Et en fait, c'était assez facile, je m'imaginais ça, parce qu'à l'époque, pour ma maman, par exemple, faire un prêt de 50 000 francs, c'était beaucoup, donc c'était compliqué. Or, quand vous rentrez dans une école de commerce, c'est pas si difficile. Donc finalement, je pense qu'à peu près, tout le monde peut vraiment le faire, et donc c'est possible.
Et ça vous a appris quoi, cette expérience de se dire, allez, c'est cher, c'est pas grave, je vais faire un prêt, sans se poser la question du remboursement après, en disant, j'y vais.
Mais ça, sur le coup, ça ne m'a appris rien du tout, parce que je ne me suis même pas posé la question. Je me suis dit, je veux le faire, et puis je vais ouvrir les portes pour pouvoir le faire. Et donc, j'ai découvert les problèmes petit à petit. Mais ça m'a appris que tout était possible, qu'on pouvait se lancer comme ça, dans le vide. C'est comme quand on fait une présentation avec des gens. Il y a un moment, on peut leur donner beaucoup, et puis on prend le risque, quand on leur demande, par exemple, de se lever, de s'engager, et vous pouvez tomber à plat. Mais comme vous ne tombez pas à plat 9 fois sur 10, ce n'est pas grave, la dixième, vous vous relevez.
Tout est possible.
Oui.
Donc vous faites donc l'ESSEC, et deuxième moment clé, nous sommes en 1987, vous entrez chez Arthur Andersen, un des géants de l'audit, comme consultante, et dès le premier jour, vous donnez le ton, on doit vous respecter.
C'est-à-dire que j'étais vraiment étonnée, parce que j'ai jamais eu cette idée que les femmes étaient différentes des hommes, donc c'est vrai que je suis arrivée le premier jour, et l'associé qui était là nous dit « bon, toutes les façons, il n'y a pas beaucoup de femmes dans cette salle, et par ailleurs, au moment de passer manager, il n'y en aura plus ». Et je me suis dit, mais
pourquoi ?
Premier jour, j'étais sur les bancs de, pas de l'école, mais presque, parce que quand vous entrez en audit, vous êtes vraiment en formation pendant une quinzaine de jours. Et là, je ne disais rien, parce que je ne savais pas tellement où j'étais tombée, mais je pense qu'on voyait sur mon visage que je fulminais littéralement. Donc l'associé me dit, mademoiselle, je vous noterai le mademoiselle, il semblerait que ce que je vous dis vous déplaise. J'ai dit oui, ce que vous dites me déplaît fortement parce que c'est pas à vous de prédéterminer ce que je vais faire de ma vie. Donc on verra quand je serai manageuse. J'ai jamais été par ailleurs. mais j'ai trouvé ça incroyable, c'est-à-dire qu'il nous préassignait un rôle. Ensuite, je me suis très bien entendue avec cet associé. Il était formidable en vérité. Mais il avait des schémas dans la tête qui venaient d'histoire et de ce qu'il avait vécu les années précédentes, j'imagine. Et de fait, il y avait peu de femmes managers ou manageuses chez Arthur Andersen à l'époque. Donc oui, j'avais dit que je n'autorisais personne à décider pour moi ce que j'allais faire dans les 5 prochaines années.
Mais ce qui est dingue, c'est qu'un premier jour, on en a tous vécu. Un premier jour, on est plutôt dans ses petits souliers, on acquiesce, on n'ose pas trop aller
Mais j'étais dans mes petits souliers. D'ailleurs, s'il n'était pas venu me chercher, je n'aurais rien dit. C'est juste que je pense que j'étais tellement agacée. Et ça se voyait, qu'il est venu me chercher en se disant « elle va bafouiller ». Je n'ai pas bafouillé du tout. Je lui ai dit que franchement, ce qu'il disait n'était pas correct. Et c'est vrai. Il le dirait aujourd'hui, il aurait de vrais problèmes.
Mais ça, c'est une de vos marques de fabrique, hein, ce franc-parler. Hein, parce que j'ai vu beaucoup de vidéos de vous. Et vous avez ce franc-parler-là qui fait aussi que les gens vous suivent, non ?
Oui, et que les gens comprennent. Si vous emberlificotez votre discours dans des choses complexes, ils ne savent pas où vous voulez aller, ils n'ont aucune chance de vous suivre.
On continue votre parcours qui est très long. En 1987...
Je vous remercie de me rappeler mon âge.
Je veux dire très riche en expérience. En 1997, vous intégrez Virgin Disc pour devenir directeur administratif et financier.
Directrice, j'étais déjà directrice à l'époque.
À l'époque, c'était écrit directeur.
Ah oui ?
Dans les journaux.
C'est un problème de journaliste, ça, j'y peux rien.
Et vous, vous présentiez déjà comme directrice ?
Ah bah oui.
Et elle est vraiment, hein, dans tous les journaux de l'époque, il était écrit directeur, ce qui est dingue aujourd'hui, ça paraît
fait plus
fou.
Sérieux.
Ouais, mais aujourd'hui, ça paraît dingue. Ça paraît tellement vieux. Et j'ai lu qu'après 12 rendez-vous, 3 mois d'échanges, vous finissez par poser un ultimatum pour rentrer chez Virgin, c'est ça ?
Ah oui, ça a été très dur. En fait, j'avais 2 propositions en même temps. Une qui était intéressante, qui était de contribuer à la création de Zara en France. Et puis une qui était de rentrer chez Virgin. Or, le patron de Virgin à l'époque était vraiment un type extrêmement inspirant. Je parle du patron français, l'anglais aussi, mais moi je travaillais en France. Et j'avais vraiment envie de travailler avec lui. Mais c'est vrai que j'ai fait 12 entretiens, j'ai vu à peu près tout le monde. Et au bout d'un moment, les gens de Zara m'ont dit « Bon, bah, écoutez, c'est bien, mademoiselle, on disait beaucoup mademoiselle à l'époque, mais il va quand même falloir que vous choisissiez. » Donc j'ai appelé et j'ai dit « Bah écoutez, c'est très simple, moi je dois choisir, il faut que je prenne l'un des deux, donc je dois choisir la semaine prochaine. Dites-moi quelle est votre position. » Je me suis fait littéralement rincer par le patron de Virgin. « Comment osez-vous me faire un ultimatum ?» Je lui ai dit « En fait, je vous donne le choix. » Et il m'a choisi. Il a bien fait d'ailleurs.
Très différent de Arthur Andersen, hein, Virgin, quand vous êtes arrivée.
Très différent. Très différent. Je me souviens quand on faisait en fait, Virgin était organisé autour d'un escalier central. Les réunions se faisaient dans l'escalier. C'est un peu baroque, mais c'est comme ça. Et un jour, on était tous dans l'escalier et arrivent les auditeurs à la porte. Je me souviens très bien, le patron de l'époque qui dit « Bon, faites gaffe, il y a les banquiers ». Donc oui, c'était un monde très différent. Ah ben non, moi j'étais chez Virgin à l'époque, j'avais changé de côté, non, mais ils étaient en costume, enfin bon, la musique c'était un monde un peu différent, ce qui est très sympa d'ailleurs.
Alors en hypercroissance, hein, un monde en hypercroissance qui vit plusieurs évolutions, le CD, le numérique, un monde en changement aussi, donc ça veut dire difficile et beaucoup de transformations. En 2002, vous êtes d'ailleurs toujours chez Virgin et vous avez continué à grimper les échelons, mais parfois c'était pas simple. Est-ce que vous pouvez partager ça avec nous, ce
moment-là ? Alors, on a eu chez Virgin 6 années d'hypercroissance à 2 chiffres, formidable. On a vraiment, c'est une maison qui a lancé le rap en France, c'est une maison qui a lancé la vente à l'international d'artistes. Enfin, vraiment, c'était une maison très, très, très innovante. Et puis,
la première aussi à mettre son catalogue de musique sur iTunes.
Absolument. Alors, déjà, on était fusionné avec EMI parce qu'EMI avait 2 filiales en France, EMI et Virgin. Et moi, j'ai procéder à la fusion. Et c'est vrai qu'à un moment donné, je faisais un peu tout et j'avais beaucoup de mal à passer le plafond de verre, c'est-à-dire que le patron de l'Europe continue à être patron de la France, c'est lui qui continue à expliquer qu'il faisait tout, il faisait beaucoup d'ailleurs, mais pas tout. Et à un moment donné, je suis un peu comme quand je suis... J'ai pas réfléchi comme quand j'ai... Souvent, il faut pas réfléchir, en vérité. Un peu comme quand j'étais chez Arthur Andersen au début, je prends l'avion pour aller le voir à Londres, et je devais avoir l'air vraiment furibard, parce que... Et il m'a dit « Assieds-toi ». Il m'a dit « J'ai quelque chose à te dire », et c'est là qu'il m'a nommé président délégué. Et je dois exprimer à un moment donné ce que je pense profondément, de manière à ce que les gens, finalement... le voient et se disent, là, il faut quand même faire quelque chose. Et en général, c'est une situation qui a trop longtemps duré de trop d'injustices ou qui est inéquitable. Et j'ai beaucoup de mal à supporter ça.
Et ça se voit. Du coup, ils vous nomment présidente.
Présidente déléguée, parce qu'il ne faut pas exagérer non plus.
Déléguée, puis il y a la fusion.
Oui.
Avec EMI, donc c'est vraiment un des majors de l'industrie du disque à l'époque.
Des 4 majors du disque à l'époque. Et là, j'ai terminé présidente d'EMI, effectivement.
Vous avez continué à gravir les échelons.
Oui. Oui, parce qu'on a fait la fusion et effectivement, j'ai été présidente de l'ensemble fusionné. C'est une très, très belle expérience. Mais la difficulté, tout de même, à un moment donné, dans ces milieux-là, en plus, la musique, comme la presse, ne sont pas des milieux où il y a beaucoup de femmes, en vérité, dirigeantes. Il n'y en avait d'ailleurs pas à l'époque. Et donc, ça leur paraissait, je pense, incongru.
Que vous soyez là ? Que vous preniez les fonctions à chaque fois.
Oui, bien sûr, à chaque fois.
Donc il a fallu les chercher à chaque fois. Et pourtant, vous avez révolutionné tout le fonctionnement de l'entreprise avec, on l'a dit, la numérisation, avec le CD, etc.
Mais les femmes sont des parfaites numéro 2. Elles font tout le boulot et elles ne la ramènent pas. C'est bien. Pourquoi voulez-vous que ça change ? Et jusqu'à ce que vous imposiez un changement, ça ne change pas, en réalité. Donc c'est là qu'il y a quelque chose à trouver dans les ressources internes de chacune d'entre nous. C'est qu'à un moment donné, et en plus, c'est confortable d'être numéro 2, même pour moi, je dois le reconnaître.
Pourquoi ?
Bah parce qu'on fait ce qu'on aime, on entraîne les équipes, on travaille, on transforme, on organise, moi c'est ce que j'aime faire. La position de numéro 1, parfois, est moins confortable, donc il faut vraiment aller la chercher à l'intérieur de soi. Et ça, c'est un effort.
Et comment vous avez fait ? C'est l'injustice ?
Oui. Je trouvais qu'à un moment donné... Non, et la capacité à agir. Moi, ce qui m'a toujours poussée pour aller chercher plus de responsabilités, c'est de gagner en capacité à agir. C'est qu'à un moment donné, vous avez compris comment fonctionne l'entreprise, les équipes vous suivent, et puis vous vous retrouvez, vous êtes quand même... vous avez besoin de gagner en capacité à agir, et c'est comme ça que je suis allée à Londres en disant « Mais j'ai besoin de faire plus, moi. » Et il me l'a donné, d'ailleurs.
Et ça faisait combien de temps que vous étiez numéro 2 ?
Plus des années, 4 ans, 5 ans, longtemps.
Et il n'a pas rechigné quand vous lui avez proposé ?
Mais j'ai pas eu le temps de lui demander. Il me l'a proposé tout de suite.
Il avait compris ?
Oui. Enfin, il l'avait vu, je crois.
Est-ce que vous pouvez partager un moment dans votre univers de musique ? Parce que vous avez vécu des moments, je crois, incroyables. Il y a eu Diams qui a fait de l'a cappella devant vos commerciaux. Vous avez vécu... Enfin, dans l'univers de la musique, on vit des moments quand même extraordinaires. Est-ce que vous pouvez partager un des moments phares avec vos collaborateurs et collaboratrices ?
Ah, le moment, c'est vrai que le moment où Diams est venu, on ne la connaissait pas, on ne savait pas qui c'était, a cappella, un matin, chanter devant nous, franchement, c'était Edith Piaf, c'était incroyable.
Mais pourquoi elle est venue ?
Ah, parce qu'on faisait régulièrement des conventions avec tous les commerciaux, et 2 fois par an, les artistes venaient, on a eu aussi Jarouski qui est venu avec son clavecin, personne ne le connaissait, il est venu devant nous chanter, c'était incroyable. C'est des moments qui sont importants. On a été les premiers à voir le visage des Daft Punk. Ce qui, maintenant, évidemment, mais à l'époque, c'était quelque chose d'absolument incroyable. Donc les artistes venaient au début, ils passaient d'abord, évidemment, par l'artistique, et puis ils venaient se présenter à la force commerciale, parce que c'est eux, à l'époque, on vendait les disques, hein, donc c'est eux qui allaient les promouvoir. Et donc c'était toujours un moment très touchant, très important pour les artistes, et très important pour nous aussi.
Quelques années plus tard, en 2009, vous êtes appelée à la rescousse pour diriger et redresser Libération. Vous devenez coprésidente du directoire, aux côtés de Laurent Geoffrin, et vous arrivez dans une situation assez catastrophique. Les salariés sont en grève. Il y a une salariée qui est en grève de la faim. Les salaires ne pouvaient pas être payés à la fin du mois. Est-ce que vous pouvez nous partager, déjà, pourquoi vous êtes arrivée dans... comment on pourrait appeler ça? Dans cet univers où il y avait vraiment tout à redresser. Un peu
alors,
compliqué.
Vraiment pour être utile. Vraiment pour être utile parce que j'avais fait 12 années dans la musique. On y reviendra peut-être, mais j'avais vraiment un désaccord stratégique avec mon actionnaire. Je suis allée au bout de ce que je pouvais faire pour le convaincre, je n'ai pas réussi. Et donc, j'ai cherché une solution. Et dans la solution, il y avait quand même ma connaissance des transformations numériques, et je me suis dit, il y a un endroit où ils en ont vraiment besoin, et où en plus, c'est vraiment utile pour la société, c'est la presse. Et là, moi, je ne connaissais personne, je n'ai pas cherché de travail, en vérité, donc je suis allée voir le chasseur de tête qui m'avait placé chez Virgin et qui m'a fait rencontrer Agnès Touraine, que je ne connaissais pas du tout. Et quand je l'ai rencontrée, je ne savais pas qu'elle était présidente de Libération. Et on racontera probablement, puisque je souhaite que ce soit elle qui soit en portrait. Mais donc, je me suis retrouvée dans cette situation un peu étrange où, bah oui, effectivement, ils m'ont nommée, enfin, les actionnaires, hein, Édouard de Rothschild à l'époque, Carlo Perron, coprésidente du directoire avec Laurent Geoffrin, que je ne connaissais pas. Je l'ai connue à cette occasion-là. Et me voilà débarquant chez Virgin, le jour où j'arrive,
chez Libé.
Et le jour où j'arrive, c'était un peu étrange, parce que il y avait une femme en grève de la faim, il y avait les salariés qui avaient mis des masques blancs pour protester vis-à-vis du conseil d'administration, qui était d'ailleurs un conseil de surveillance, et moi qui arrive là-dedans, et pas d'argent dans les caisses pour faire la paye à la fin du mois. Et les gens qui me disent « Mais pourquoi est-ce que tu es venue ?» Et moi j'ai dit « Mais parce qu'on va trouver des solutions. » Et on a trouvé plein de solutions. On a tout de suite lancé une nouvelle formule pour remobiliser une espèce d'énergie positive. C'était devenu vraiment très, très un tourbillon négatif et difficile. Et la rédaction a été très, très mobilisée derrière ce projet qu'a mené Laurent Geoffrin. Et puis, on a réglé, on a mis longtemps d'ailleurs, hein, mais le problème social avec le syndicat du livre, ça a mis très, très longtemps. Je me souviens, ça avait été drôle parce qu'à un moment, je ne les connaissais pas et je devais signer un protocole d'accord avec un des représentants du syndicat du livre. Et je lui dis, venez chez moi. Et donc, on a signé chez moi, et tout le monde me dit « Mais tu ne l'as pas fait venir chez toi ?» Ben, je dis « Si, bien sûr, c'était la façon, c'était un dimanche, je ne voyais pas tellement ce qu'on pouvait faire dans la presse, on travaille le week-end. » Et donc, on a réglé les problèmes, on a finalement trouvé les moyens de développer à l'époque, on développait les forums, maintenant il y en a beaucoup. À l'époque, Libé était vraiment un spécialiste des forums en région, on a été chercher de l'argent avec la régie, enfin voilà, on a remis Libé à l'équilibre, et ensuite on a trouvé un actionnaire. Et on a remis un journal en bon état de marche à son actionnaire qui est Édouard de Rothschild et qui ensuite a fait le reste du chemin. Vous voyez, le journal existe toujours et je trouve ça pas mal. C'est devenu une fondation, c'est bien.
Alors, vous avez évoqué Agnès Touraine.
Oui.
Je vous propose d'écouter tout de suite Yves Villaginès, donc, qui est journaliste aux Échos et qui en a fait son portrait. Yves, que tu l'as rencontré il y a longtemps déjà, il y a plus de 10 ans.
Oui, je l'ai rencontrée quand elle était présidente de l'Institut français des administrateurs. Alors bonjour Marie, bonjour Nathalie Collin. Oui, la femme que vous avez choisie est ce que l'on appelle communément une rôle modèle, c'est-à-dire une femme qui sert d'éclaireuse, un peu comme vous aujourd'hui, pour d'autres femmes, donc une femme qui montre la voie. Vous avez choisi Agnès Touraine. Elle est aujourd'hui présidente du groupe Rexel. C'est un distributeur de matériel professionnel électrique, un leader mondial avec plus de 18 milliards d'euros de chiffre d'affaires présent dans 21 pays. Tout au long de sa vie et de sa carrière professionnelle, Agnès Touraine a poussé des murs, d'abord pour elle-même, et elle a aussi ouvert des portes à de nombreuses femmes. Agnès Touraine a grandi dans un milieu universitaire, entourée de médecins et d'intellectuels, son oncle et le sociologue Alain Touraine. Elle prend un chemin somme toute classique d'abord avec Sciences Po, avant de bifurquer vers un MBA aux États-Unis. Un choix d'indépendance dans une famille où personne avant elle, ne s'était engagé dans le monde des affaires. Et c'est ainsi qu'Agnès Touraine démarre une carrière de dirigeante d'entreprise. D'abord chez Hachette, et férue de technologie, un peu comme vous, elle devient, au tournant d'Internet, présidente de Vivendi Interactive. Sa carrière va ensuite l'amener à la présidence de l'Institut français des administrateurs, à un moment où les femmes prennent place dans les conseils d'administration des grandes entreprises suite à la loi Copé-Zimmermann. Mais Agnès Touraine va plus loin parce que pour elle, l'enjeu n'est pas seulement de s'ouvrir aux femmes, mais à toutes les composantes de la diversité, qu'elle considère comme un enrichissement, une ouverture indispensable aux autres. Et aux femmes qui souhaitent aujourd'hui suivre sa voie, elle conseille de faire seulement ce qu'elles ont envie de faire. Ce qu'elle résume en un seul mot, un verbe, oser. Et c'est ce qu'elle vous a permis de faire quand vous l'avez rencontrée au moment où vous êtes devenue présidente de Libération. Parce que c'est cette rencontre qui a déterminé ce choix, ce parcours ensuite.
Ah oui, Agnès a changé ma vie. Si je devais me réincarner, j'aimerais me réincarner en Agnès Touraine. Elle est, c'est un rayon de soleil, cette femme. Elle a changé ma vie et elle n'est pas facile. Hein. C'est-à-dire que quand je l'ai rencontrée, je ne la connaissais pas. Donc, je vais de la part d'un chasseur de tête. Imaginez-vous, j'étais un peu naïve d'ailleurs, je ne savais pas qu'elle était présidente du conseil de Libé. Et donc, je vais lui dire que je veux faire de la presse. Donc, elle me regarde déjà un peu comme ça. Je venais de la musique, c'était quand même assez osé. Pas une femme n'avait été promue dans la direction de Libé depuis la création du journal. Hein. Et elle a commencé à me faire faire des cas d'usage. À me dire, mais dans cette situation, vous feriez quoi dans cette situation? Donc on a travaillé ensemble. Et puis elle a commencé à voir que je répondais pas trop mal. Ça a duré très longtemps le processus. J'ai commencé à voir les actionnaires. Et elle a changé ma vie en ce sens qu'elle m'a donné confiance. Elle m'a dit que je pouvais le faire. Et j'ai réussi à le faire. Et puis elle a fait quelque chose de très particulier, je me souviens. Elle me dit, alors là après on s'est tutoyé bien sûr. Et elle me dit, mais surtout, tu prends pas un bureau plus petit que Geoffrin. Et moi, je dis, on s'en fiche du bureau, en vrai. Elle me dit, non, tu ne prends pas un bureau plus petit que Geoffrin. Vous êtes coprésident, vous avez le même bureau. Alors, je vais voir Laurent, je lui dis, je ne sais pas comment on va faire. Et en fait, il n'y avait pas de bureau aussi grand que le sien. Et je lui dis, écoute, il y a une solution, c'est qu'on se mette tous les deux dans le même bureau. Et on a dirigé cette crise vraiment dans le même bureau. Ce qui était, et je pense que c'est pour ça qu'on a réussi, en vérité. Parce que, étant dans le même bureau, personne pouvait aller voir l'un ou voir l'autre, manipuler quelque chose. Et donc, on a vraiment co-dirigé. Tout le monde dit, c'est pas possible. Moi, je peux dire que c'est possible. C'était quand même une grosse crise, pas d'argent dans les caisses, une femme en grève de la faim en bas, le syndicat du livre qui a bloqué le journal quand même au moins 4 samedis. C'était un peu une crise, on va dire. Et franchement, elle a changé ma vie parce qu'elle m'a imposé cette histoire de bureau que je trouvais un peu anecdotique et en fait qui a été très fondamentale. Et j'ai eu en face de moi un homme qui a dit oui, ok, on partage le même bureau, ce qui n'était pas évident. Lui était chez Libération depuis longtemps, il avait cédé son bureau. J'ai partagé son bureau, en fait, je me suis incrustée dans son bureau quelque part. Et Agnès, elle dit souvent j'ai essuyé les plâtres. Et j'ai l'impression de continuer à essuyer les plâtres et j'aimerais bien que les femmes essuient moins de plâtres et que ça soit plus facile pour elles. Et donc, oui, c'est une femme très, très inspirante. C'est un mentor, Agnès, en réalité. Vraiment.
Une rôle modèle.
Une rôle modèle.
C'est magnifique ce partage, Nathalie Collin, parce qu'on se rend compte à quel point on a toutes et tous besoin de rôle modèle, parce qu'on vous voit foncer comme ça, avancer, passer de la musique à la presse. Et en fait, il y a eu des femmes et des hommes aussi sur votre chemin, parce que Laurent Geoffrin, il aurait très bien pu dire, non, ça c'est mon bureau, prenez-en un autre plus petit. Et en fait, vous l'avez bien dit, ça compte le bureau, ça compte être numéro un. Et souvent, on se dit, oui, mais en tant que femme, on n'a pas besoin pour notre ego. Ce qui compte, c'est les compétences, etc. Et on a tendance à accepter d'être mise en retrait comme ça.
Et Agnès a bien assimilé ça et elle a bien compris les codes, mieux que moi, en tout cas à l'époque. Et c'est vrai, vous avez raison de dire qu'il y a des femmes et il y a des hommes. Si des hommes ne m'avaient pas fait confiance pour me promouvoir, j'y serais pas arrivée. Donc, à un moment donné, c'est un combat d'hommes et de femmes,
c'est
véritablement.
La mixité, oui. C'est vraiment ce qui apporte plus de mieux vivre ensemble, on le sait, mais aussi plus de performance, plus de prise en compte du vivant, plus de paix aussi.
Oui. Donc moi, j'ai toujours des deux. Aux hommes de mon équipe qui sont un petit peu moins bêtes quand il y a des femmes avec eux, et je dis la même chose aux femmes, et c'est vrai.
Et vice-versa, c'est vrai. Juste, vous avez dit, moi je voulais aller vers la presse, donc je suis allée voir le chasseur de tête, et je lui ai dit que j'étais intéressée par la presse, mais pourquoi en fait?
Parce que je pensais, je pense que la presse c'est extrêmement utile, l'information, je continue à penser que c'est... D'ailleurs, franchement, c'est pas les temps actuels qui vont me contredire, c'est que c'est consubstantielle de la démocratie. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose de très important. J'aime l'intérêt général, j'aime servir. Et je pensais que c'était utile d'aller aider à la transformation de ce modèle qui allait se transformer vers le numérique, qui est quelque chose que moi, j'avais vraiment vécu. Parce que la musique, pour des raisons de taille de fichier, hein, a été la première à se transformer vers le numérique. Je me souviens, à l'époque, on nous prenait un peu pour des idiots parce qu'on s'est pris cette vague et que ça a été compliqué de réagir. Et je me suis dit, je peux apporter ça à la presse. Est-ce que je peux faire en sorte de contribuer à ce que la presse trouve un modèle économique et perdure avec des journaux indépendants, avec des journaux qui savent se financer, avec des journaux qui savent trouver leur modèle économique. C'était un peu une cause pour moi.
Mais vous sentiez que c'était pour vous ?
Ah oui. D'ailleurs, je n'ai pas cherché ailleurs, j'ai cherché dans la presse.
Et donc après, Laurent Geoffrin part au Nouvel Observateur. Vous le rejoignez comme présidente du directoire et directrice générale du groupe LOBS, qui comprend en plus du Nouvel Obs Challenge, par exemple, ou encore Science et Avenir. Et là, c'était à nouveau un autre défi.
Oui, en fait, ça se passe un peu différemment. Quand Denis Oliven a quitté le Nouvel Observateur, Claude Perdriel nous a contactés, Laurent Geoffrin et moi-même, en disant « je voudrais que vous veniez diriger le Nouvel Observateur ». Or, Libération était en pleine recapitalisation, donc j'ai dit à Laurent Geoffrin que c'était bien qu'il y aille lui, en éclaireur, et que moi, je suivrai quand j'aurai recapitalisé le journal, parce que je ne me voyais pas avoir redressé ce journal, redonné de l'espoir à tout le monde, et puis finalement laisser l'équipe, les actionnaires et puis les lecteurs aussi complètement en plan. Donc je suis restée moi plus longtemps pour continuer et finir la recapitalisation avant de quitter. Donc je ne l'ai pas rejoint, on est vraiment partis ensemble mais en décalé.
Et d'ailleurs il y a un article des Échos de cette époque-là qui vous compare à Sainte Rita. Vous savez, la patronne des causes désespérées et perdues.
Je ne sais pas si c'était gentil. Je me souviens très bien de cet article, mais ça me va bien moi. Et je ne trouve pas que la presse soit une cause désespérée. Il ne faut pas que ce soit une cause désespérée. C'est d'ailleurs pour cette raison que je participe aux états généraux de l'information. Parce que je pense que c'est vraiment vital pour notre démocratie.
Donc, qui viennent d'être lancés.
Oui.
Et qui ont pour objectif.
Pour objectif de proposer un corpus de règles, des expériences, une grande consultation citoyenne. Et pour objectif finalement de garantir dans une démocratie à nos concitoyens d'accéder à une information libre et idéalement de très bonne qualité.
Et ensuite, en 2014, vous arrivez enfin à La Poste, d'abord en tant que directrice générale adjointe en charge du numérique et de la communication. Quand vous y arrivez, La Poste perd 50 millions d'euros par mois. Pourquoi vous ? Pourquoi vous venez à La Poste ?
Alors, ils ne m'ont pas fait venir pour redresser La Poste, parce qu'à l'époque, très franchement, je ne connaissais rien à La Poste. Je suis rentrée d'abord pendant à peu près 9 mois à la communication pour commencer à comprendre cette immense entreprise. Et j'allais en toutes les semaines en déplacement avec le président de La Poste. Enfin, j'ai beaucoup investi pour comprendre l'entreprise. Et puis, au bout de 9 mois, il m'a donné ce qui était ma spécialité, c'est-à-dire effectivement le numérique, avec pas l'idée de redresser La Poste, parce qu'à l'époque, vraiment, ce sont les gens et de la banque assurance et de la logistique qui font le résultat. Mais par contre, avec cette idée de finalement avoir un défi ensemble, et ça, je dois dire qu'avec Philippe Val, on s'est bien rencontrés là-dessus.
C'est Philippe Val, pardon, qui est président.
Qui est président de La Poste. C'est comment on transcrit finalement en numérique les valeurs, la vision de La Poste. La Poste, c'est une entreprise qui démocratise les innovations. Depuis toujours. D'abord, c'est La Poste qui a démocratisé la lettre. Là, on est quand même sous Louis XI. Mais le compte chèque postal, le colis, vraiment, c'est une entreprise qui met à disposition des masses, du plus grand public, les innovations. Et ça, je pense qu'on peut vraiment en être fier. Et on s'est dit, pourquoi on ne le fait pas en numérique ? Et ce pari qui était fou il y a 8 ans, parce que très franchement, personne ne nous attendait, on n'avait pas de légitimité, les gens se moquaient un peu. Ben aujourd'hui, moi j'ai envie de dire qu'il est gagné, parce qu'on a 4 millions d'identités numériques, c'est grâce à La Poste que le compte personnel de formation a été sécurisé, et que tout le monde peut prendre des formations, il y a moins de fraude, donc il y a assez d'argent pour ceux qui ont vraiment besoin de prendre des formations, c'est quand même pas rien, et on va le faire sur d'autres sujets. Il y a 10 millions de boîtes aux lettres, coffre-fort électronique Digipost, aujourd'hui on est leader sur ce segment-là, et aujourd'hui, on est leader aussi de l'inclusion numérique, enfin, de tous ces sujets. Donc, j'ai envie de dire que ce pari, il est gagné. Puis, on a une filiale de Capos qui va franchir le milliard d'euros de chiffre d'affaires. Donc, on a fait un pari ensemble il y a 8 ans, qui était culotté, au bon sens du terme, osé, sur lequel personne ne nous attendait. Et on a gagné à la fois de la légitimité, de la profitabilité, parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas d'entreprise, de cause si on n'arrive pas à générer son modèle économique. Donc, qui a généré son propre modèle économique, et puis qui est utile à notre pays.
Oui, et pour ça, il a fallu accompagner les salariés à la transformation. Comment vous avez fait ? Parce que ce n'est pas simple hein, non plus de former, d'emmener, d'embarquer sur le numérique en disant « votre métier va changer, mais c'est pour le mieux ». Et voilà comment ça va se passer.
Alors d'abord, je ne suis vraiment pas toute seule. Hein. C'est vraiment un mouvement du président et de son COMEX. D'abord, la première chose qu'a fait Philippe Valls, c'était intéressant, c'était de commencer à faire accepter à l'entreprise que le courrier baissait. Et moi, je me souviens, je suis arrivée à un moment où le fait de dire que le courrier baissait était « Ah mais alors, vous n'aimez pas le courrier, vous ne croyez pas au courrier. » Il n'y a pas de question de croyance.
On est passé de 18 millions de plis, c'est ça, à 6 millions.
18 milliards à 6 milliards.
18 milliards à 6 milliards.
Et donc, factuellement, le courrier baisse. Et on aime énormément le courrier. Et d'ailleurs, je vous engage à écrire des lettres. Et on est très heureux s'il y a plus de courriers. Factuellement, il baisse. 2014, Philippe Valls impose, explique, éclaire l'entreprise sur le fait que le courrier baisse et que donc il faut faire quelque chose. Il lance cette grande aventure, j'ai envie de dire, numérique. Mais au tout début, les gens nous ont dit « Mais alors, vous voulez remplacer l'écrit par le numérique ?» Et ce qui n'est pas du tout la stratégie de La Poste. La Poste, franchement, c'est d'ailleurs sa grande force. Elle est capable de mixer les deux et de faire les deux. Donc oui, on développe le numérique parce qu'une partie de nos concitoyens veulent vraiment faire les opérations en numérique et on ne peut pas leur refuser. C'est le sens, on va dire, de l'histoire. Mais une autre partie de nos concitoyens ont absolument besoin de proximité et de physique. Et donc c'est intéressant de mixer les deux parce que ça permet de trouver un modèle économique à l'ensemble. C'est-à-dire d'allouer, c'est ce que fait formidablement bien le numérique, d'allouer nos ressources là où finalement nous en avons besoin. C'est-à-dire de passer plus de temps avec quelqu'un qui va avoir besoin qu'on lui explique comment fonctionne son téléphone portable, par exemple avec la Poste mobile, ce que franchement plus personne ne fait. Et d'un autre côté, bah, de traiter mon fils qui va avoir un compte ma French Bank complètement en numérique parce qu'il n'a pas du tout de demande d'avoir un contact physique. Donc c'est cette révolution-là qui a eu lieu et je crois que les gens nous ont suivis et nous ont cru parce qu'ils ont bien vu qu'on allait faire les deux en même temps.
Oui, parce que, par exemple, maintenant, on peut passer le code dans les points de vente de La Poste. Vous allez essayer des cabines d'essayage aussi, quand on reçoit un colis, qu'on puisse l'essayer dans le point de La Poste. Donc vraiment, vous essayez d'être multiservice de proximité. Et notamment pendant le confinement, vous avez fait appel aux collaborateurs et collaboratrices de La Poste pour trouver des solutions. Est-ce que vous pouvez nous partager ce moment-là, Nathalie ?
Oui, alors d'abord, le confinement, il faut dire que c'était quelque chose d'assez incroyable, puisqu'on a 250 000 personnes, dont finalement 80% sont restées au contact de nos concitoyens, les factrices, les facteurs, les chargés de clientèle, les conseillers bancaires, continuaient à être sur le terrain avec une vraie peur, hein, car à l'époque, on se souvient que tout le monde avait vraiment peur. Et puis, on devait piloter ça de manière complètement à travers des écrans. Et je me souviens très bien avoir eu toutes mes équipes. Et à l'époque, beaucoup d'entreprises faisaient le choix de mettre les personnes en chômage technique, vous vous souvenez ? C'est pas un choix que le président de La Poste et La Poste a fait. Nous, on a gardé tout le monde. Et si des gens ne pouvaient pas travailler, ils étaient chez eux, mais ils n'étaient pas en chômage technique. C'était un choix politique assez important, parce que à l'échelle de La Poste, c'est assez coûteux. Et je me souviens très bien, mon patron de la Taelia de l'époque hein, me dit « Bon, mais... on n'a pas grand-chose à leur donner aux gens qui font des algorithmes, on va les faire rentrer chez eux, on ne sait pas trop ce que ça va donner. » Moi, j'ai dit non, on va faire assez différemment de cela. Tu vas leur donner tous nos sets de data, ils vont se mettre où ils veulent, ça m'est égal, et à la fin du confinement, je veux qu'ils viennent avec des projets. Ça a été le début d'une centaine de projets data et IA transverses dans tout le groupe, qui maintenant nous permettent vraiment de nous transformer de manière accélérée. Donc ça a été une façon, d'abord eux, ça leur a, elles et eux, parce que nous avons des femmes dans ces filiales de data et on en a beaucoup plus que les autres entreprises, et elles vont chercher d'autres filles dans les écoles, c'est assez sympa, ont été capables, avec une liberté totale d'espace et de temps, de créer des idées, et on a eu beaucoup, beaucoup de projets. Aujourd'hui, on en a une centaine qui viennent de là, en vérité.
Oui, ce qui m'a frappé en regardant les vidéos de vous, en lisant les interviews, ce sont vos valeurs qui sont très fortes, à la fois sur la proximité, donc les territoires, ne pas les laisser tomber, rester toujours proche des clientes et des clients. Vous avez souvent des véritables déclarations d'amour hein, envers les territoires, ce qui me va bien, moi aussi. Humaniser la tech, J'ai lu une critique des grands de la tech dans ce monde où vous dites plutôt que d'aller sur la Lune ou de devenir immortel...
Sur Mars, la Lune, c'est pas assez loin pour lui.
Plutôt que d'aller sur Mars ou de devenir immortel, il vaut mieux soutenir la décarbonation ou lutter contre la faim dans le monde. La parité dans la tech aussi, on va y revenir. Et la RSE, parce que vous avez fait en sorte notamment de mettre des vélos à disposition, enfin de remettre des vélos, parce qu'il y avait déjà des vélos, hein, à disposition des postiers pour que le dernier kilomètre soit le plus écologique possible.
J'ai résumé. C'est un grand projet de la branche service courrier-colis et aussi de la DRH du groupe. On est l'entreprise dans le monde qui a la meilleure note RSE pour toutes ces raisons-là. Et ça, ça vient de très longtemps. C'est un travail de toutes les équipes de la Poste depuis très longtemps. Moi, je ne crois pas qu'on puisse s'engager si on n'a pas de valeurs. Et ce sont mes valeurs qui m'ont fait à chaque fois bouger. Je vais vous donner un exemple. Quand il y a eu ce tremblement de terre de Paris, on ne s'en est pas bien rendu compte, mais il y a eu un tremblement de terre entre Poitiers et Niort. L'épicentre était à Laigne, qui est un petit village. C'est vrai que j'ai tout de suite voulu, contre l'avis de mes équipes d'ailleurs, y aller, parce que je l'ai senti, je ne sais pas comment vous dire. J'étais le dimanche en train de regarder ce qui se passait. Je me suis dit, il faut vraiment y aller. Et c'est un des déplacements les plus émouvants que j'ai jamais fait, parce qu'on ne s'est pas rendu compte que ces personnes avaient des maisons qui étaient barrées d'une croix noire, donc qui allaient être rasées parce qu'elles avaient des fissures qu'on ne pouvait pas réparer, que c'était trop dangereux. Les écoles étaient fermées, il y a eu des répliques. Donc moi, j'ai voulu y aller. Ça a permis de résoudre énormément de problèmes, parce que quand je demande les choses, ça va plus vite que quand je les fais demander. Et je ne regrette pas, parce que parfois... les gens se sont moqués de moi, mais je trouve qu'il faut être capable de faire l'hélicoptère quand on dirige. C'est-à-dire, à la fois, on a une vision très haute, très stratégique, très long terme, et on donne la direction. Et puis, de temps en temps, quand il y a quelque chose de particulier qui se passe, ben, il faut vraiment aller au plus bas. Je peux vous dire que du côté de Laigne, il y a une femme qui s'appelle Dorothée, qui a énormément de problèmes avec sa maison, et qu'on est encore en train de les régler, et qu'on va les régler jusqu'au bout. Et ça, c'est aussi notre travail. En fait.
Pourquoi on s'est moqué de vous ?
C'est sur l'hélicoptère. Parce que les gens trouvent l'image ridicule, mais en même temps, très sincèrement, j'en ai pas trouvé d'autres. C'est-à-dire qu'il faut savoir être très haut, mais de temps en temps, il faut vraiment retourner sur le terrain. Et c'est l'hélicoptère qui le fait le mieux.
Et vous dites aussi souvent qu'il faut faire fi des critiques. Vous en avez reçu certainement, mais vous faites fi des critiques, vous n'écoutez pas. Et c'est un conseil que vous donnez régulièrement.
Ça, c'est un beau moment. Il m'avait demandé d'être marraine d'une promotion de jeunes start-upeuses. Et c'était en plein Paris, un jour d'embouteillage comme souvent. Et j'ai mis, moi qui pars toujours très en avance, je pense que j'ai mis plus de 2 heures à arriver. Donc j'arrive au moment où il faut monter sur scène. J'ai pas le temps de rien. Et donc, je me retrouve sur scène avec cette salle incroyable de plein de jeunes femmes start-upeuses. Et j'oublie tout d'un coup. Et puis, je leur ai dit, écoutez, je vais le faire court parce que ça a duré beaucoup plus longtemps. On va vous dire que vous êtes trop grande, trop grosse, trop mince, que vous vous occupez trop de vos enfants, pas suffisamment. Ou bien encore que vous travaillez trop, que votre voix est trop haute, que vous n'avez pas d'impact, ou bien que vous êtes hystérique. Et ben, je vais vous dire une seule chose, moi. On s'en fout. Je l'ai dit assez fort. Toute la salle s'est levée. Toutes les filles se sont mises à dire on s'en fout. Je pense qu'elles s'en souviennent, mais moi aussi, parce qu'en réalité, on critique beaucoup les femmes et c'est un outil de domination masculine. Donc il ne faut pas y être. Il faut y être imperméable et il faut véritablement faire glisser comme sur des plumes de pigeon.
Et ça, c'est ce que vous faites, vous ?
J'ai du mal, mais j'essaye. Je m'entraîne tous les jours.
Je vais vous faire écouter maintenant une question posée par la communauté. C'est Céline, aujourd'hui, qui vous pose cette question.
Vous avez créé dernièrement une école de la data et de l'intelligence artificielle. Comment réussissez-vous à attirer des talents féminins dans un domaine encore trop genré ?
C'est compliqué. Il faut que vous sachiez que quand on a choisi de lancer cette école, moi j'ai trouvé que c'était une initiative formidable des équipes. J'ai tout de suite dit, c'est formidable, j'y vais, mais elle va être paritaire. Première réaction des équipes, c'est pas possible. Et je leur ai dit, on va montrer que c'est possible.
On ne trouve pas de femmes.
On ne trouve pas de femmes.
Ça, c'est l'argument clé quand même.
Et donc, quand je l'ai lancé à Vivatech, je me souviens très bien, je l'ai lancé et je me suis encore une fois lancé. J'ai pris un risque, j'ai dit, cette école sera paritaire. Alors, tout le monde m'a dit, mais on ne va pas y arriver, etc. Et je me souviens très bien, il y a un jeune homme qui est venu me voir et qui me dit, moi, j'aimerais bien postuler, je suis dans une école d'info, j'aimerais bien postuler à votre école, ça m'intéresse. Je lui dis, il n'y a pas de problème. C'est comme en boîte de nuit. Il me dit, comment ça, c'est comme en boîte de nuit ? Eh bien, je dis, trouvez une femme dans votre école qui a envie de faire l'école, venez tous les deux, on vous prend tous les deux, je vous promets. Donc il y a déjà du bouche à oreille, il y a déjà l'implication des garçons qui peuvent aussi le faire. Il y a le fait d'aller les chercher, il y a le fait de leur dire qu'elles vont y arriver, parce que beaucoup de femmes pensent qu'elles ne vont pas y arriver, a priori. Et c'est ce que fait aussi ProBayes à Grenoble, pour avoir des femmes dans notre filiale de data et d'IA. On envoie les femmes sur les campus, elles expliquent que c'est possible. Et ça marche très bien. Aujourd'hui, alors, c'est une petite école. Donc, évidemment, si vous cherchez des milliers d'étudiants, je ne dis pas que c'est faisable. Mais quand on fait cet effort, on y arrive. Et moi, je suis allée à la première promotion pour lancer l'école. D'abord, c'est une école qui est complètement inclusive parce que les étudiants sont en alternance. Et donc, il n'y a pas de barrière à l'entrée.
Ils sont payés.
Il n'y a pas... le chef de famille, comme on disait à l'époque, qui peut dire à la fille, elles me l'ont dit comme ça, hein, que leur père ne voulait pas payer leurs études et qu'elles ne pouvaient pas en faire. Et donc, c'est un objet d'émancipation. Moi, j'encourage toutes les entreprises à avoir ce genre d'initiative dans leur domaine. C'est-à-dire à faire des écoles en alternance pour leurs propres besoins, en étant paritaire. Et franchement, ça change le monde. Petit à petit, mais ça change le monde.
Et là, vous avez gardé en tête votre propre expérience aussi, j'imagine, avec oui. Le prêt à l'ESSEC dont on a parlé au tout début.
Oui, parce que, bon, moi, j'avais pas peur et je suis allée faire ce prêt, mais je peux comprendre que d'autres se disent c'est quand même un risque considérable. Franchement, si on peut mettre le pied à l'étrier toutes ces femmes, d'ailleurs, elles vont changer le monde. C'est la génération qui vient qui va changer le monde, c'est plus nous. Et donc, je trouve... Moi, j'étais à une réunion avec des éditeurs de presse qui travaillent là-dessus pour former des gens et travailler à former des jeunes femmes, y compris des quartiers prioritaires de la ville pour devenir journaliste, il faut faire ça. Tout le monde doit le faire dans son propre domaine, finalement, de compétences.
Oui, quand on est sensibilisé, c'est vraiment un devoir. On a une responsabilité de s'assurer, d'être vigilant, de voir, de compter, de s'assurer qu'il y ait une parité et une égalité dans tous les domaines, d'ailleurs.
Oui, parce que derrière la parité, il y a l'intégration. Donc moi, je me suis retrouvée face à 55 jeunes des banlieues, très franchement, principalement, hein, avec les garçons qui se demandaient pourquoi il y avait autant de filles, parce que je pense qu'ils n'ont pas l'habitude de ça. Et à un moment donné, en plus, c'était une femme qui était sur et je l'ai vu dans leurs yeux, je leur ai dit « Vous vous demandez hein, pourquoi il y a autant de femmes ?» Et j'ai vu qu'ils se disaient « Oui, mais je vais vous dire, c'est extrêmement simple. Il n'est pas question que vous écriviez tout seul les algorithmes de demain, ça va changer le monde. Les femmes vont changer le monde avec vous. » Et maintenant, je les vois, quelques mois après, ils ont vécu ensemble, ils sont revenus me voir à Vivatech, et il y a un groupe qui est mixte, qui est extrêmement... Il y a beaucoup d'intégration sociale, ethnique, etc. Et ça marche super bien. Et je pense que ce devoir-là de travailler à l'intégration... La Poste est une entreprise extraordinaire pour l'intégration et pour la parité. Les femmes gagnent 0,2% de plus que les hommes. Ça veut dire qu'on est à parité. C'est quand même pas évident sur 250 000 personnes. Et sur la promotion. C'est vrai que moi, on le fait systématiquement quand on se déplace. On a des histoires formidables d'alternantes, de facteurs, de factrices qui deviennent directeurs, directrices régionaux. Ça, je pense que c'est la responsabilité de toutes les entreprises. Nous, on le fait bien à La Poste.
Vous travaillez dans le domaine du numérique depuis toujours. Quand est-ce que vous avez pris conscience...
Depuis qu'il y a du numérique.
Depuis qu'il y a du numérique, pardon. Quand est-ce que vous avez pris conscience qu'il y avait un gap, qu'il y avait une différence et qu'il y avait peu de femmes dans le numérique? Est-ce que vous vous souvenez de ce moment où vous vous êtes dit « mais c'est pas possible et on va faire différemment »
Quand je suis arrivée dans la presse, très vite, j'ai voulu importer quelque chose qui était quelque chose de la musique qui fonctionne bien, qui sont les droits voisins. On en a parlé beaucoup par la suite. Au début, j'ai eu un genre de succès d'estime.
Donc, c'est propriété intellectuelle, hein, s'assurer
oui.
que...
C'est en fait dire que les contenus ont une valeur, que s'ils ont une valeur, ils doivent être rémunérés. Les radios rémunèrent les producteurs de musique quand elles passent des titres, mais également Apple, quand ils vendent un téléphone, et les autres aussi d'ailleurs, rémunèrent les producteurs de musique et d'ailleurs aussi de livres. Et donc j'ai tout de suite dit, mais attendez, c'est un mode très RSE, vraiment, de co-développement, c'est-à-dire que vous avez besoin de contenu, financez les contenus, comme ça les producteurs de contenu en feront plus, vous en aurez plus de trafic, c'est vous qui, de toutes les façons, capturer la pub. Hein. Le pauvre internaute, quand il est passé au travers des réseaux sociaux et de Google, il est quand même tout, il est tout sec. Hein. Il n'y a plus beaucoup d'argent pour les journaux. Et donc, on a lancé ce travail. On n'est pas arrivé du premier coup, puisque il nous a été demandé de faire un accord avec Google. Ça a été ce fameux fonds Google. Et après, c'est devenu des droits voisins. Mais on avait déjà écrit la loi sur les droits voisins à l'époque.
Fonds Google de 60 millions d'euros pour la presse. Hein,
pour la presse, pour l'innovation technologique dans la presse. Et donc, je me suis retrouvée la première présidente de ce fonds. Ensuite, Carlo Dazzaro Biondo est devenu président. Et on m'a demandé de constituer le conseil d'administration. Et moi, j'ai dit, je vous préviens, je ne serai pas la seule femme. J'en ai marre, en fait. Et là, sont arrivés tout ce que la tech compte de personnes intéressantes, avec des hommes qui s'asseyaient systématiquement en face de moi pour m'expliquer comment je devrais faire, alors que quelques semaines avant, ils ne savaient pas ce qu'était un droit voisin, je pense. Et des femmes qui systématiquement s'asseyaient en face de moi en me disant « Non mais Nathalie, tu ne te rends pas compte, tu vas être déçue, je ne vais pas être capable de m'impliquer assez, je n'aurai pas de temps, et puis je ne suis pas sûre d'être assez bonne. » Et puis, et j'ai eu un mal fou à convaincre les femmes. Et là, je me suis dit « Non mais on a un vrai problème. » Et je vous assure que les femmes que j'avais en face de moi étaient hyper brillantes.
Ah, mais c'est classique, c'est partout. Et c'est pour, enfin, il faut convaincre, on manque tellement de rôle modèle qu'on a du mal à s'identifier et à se dire que c'est pour nous. Il y a une réalité là-dessus, issue aussi du manque de rôle modèle.
Il aurait fallu que je fasse une caméra cachée. Franchement, ça aurait été formidable sur les réseaux sociaux. Je ne l'ai pas fait, je l'ai juste dans ma tête.
De tout ce que vous avez vécu, Nathalie, de tous les petits ou grands pas, de toutes les montagnes gravies, que retenez-vous que vous pouvez nous partager? Quels sont les apprentissages qui sont devenus des forces et sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour continuer à avancer, comme un socle sur lequel vous pouvez compter?
Je pense que ce sur quoi on peut s'appuyer le plus, c'est la confiance qu'on donne aux gens. Parce que quand vous faites confiance aux gens, ils se révèlent, et la plupart du temps positivement, et ils vous donnent une force incroyable. Et moi, j'ai appris assez tôt cette force du collectif. Et je pense qu'on est là pour inspirer, pour faire en sorte que les gens se révèlent, deviennent eux-mêmes meilleurs. Je pense qu'il faut recruter des gens meilleurs que vous dans leur domaine, systématiquement.
Toujours.
Au contraire, c'est vraiment une richesse. Et cette confiance, à un moment donné, se transforme en énergie. Et moi, dans la vie, il y a deux catégories de gens. Il y a les gens qui me donnent de l'énergie, à qui j'en donne beaucoup. Et il y a les gens qui m'en prennent. Et les gens qui m'en prennent, je fais tout pour les éviter. C'est pas facile parce qu'ils ont envie d'en prendre. Ils se nourrissent, hein, c'est une espèce de cancre-là qui se pose comme ça sur votre énergie. Cela, je vous recommande de les éviter absolument parce qu'ils sont dangereux. C'est un danger absolument létal dans les entreprises et il y en a. Par contre, quand vous donnez de l'énergie aux gens, ils vous en renvoient tellement plus que, en fait, il n'y a plus de limite. Quand vous avez un corps social qui est engagé dans une transformation, il n'y a pas de limite. C'est ce que j'aime à La Poste, c'est que c'est une entreprise dont, et pourtant je pousse autant que je peux, je n'ai pas trouvé les limites. Je pense que cette entreprise peut tout faire, en vérité.
Mais je pense qu'on peut tous tout faire, hein, quand on est ensemble, quand on est unis, quand on a la confiance. Et vous avez raison, la question de l'énergie est essentielle. Il faut éviter, vous avez raison.
Les cancres là.
Les cancres là. Et par contre, l'énergie est une vraie énergie circulaire. C'est-à-dire, quand on en reçoit, enfin, quand on en donne d'abord, on en reçoit tellement plus et ça repart dans l'autre sens.
D'ailleurs, c'est
magique.
Le cas de la vraie énergie, c'est une transformation, en fait. Et si on transforme des valeurs positives et de l'énergie, elle se transforme plutôt pas mal.
Donc ça, c'est votre socle. C'est-à-dire que vous savez que qu'en faisant confiance aux autres, vous allez mettre en route, justement, cette énergie circulaire.
Et ça marche très bien.
On va passer au tac au tac, des questions pour lesquelles il faut répondre au tac au tac. Vous êtes prête, Nathalie? Si vous aviez 25 ans aujourd'hui.
Mais moi, j'ai 25 ans, malheureusement seulement dans ma tête, mais j'ai toujours 25 ans.
Avez-vous une discipline de vie?
Je bois pas, je dors pas beaucoup et je donne beaucoup d'énergie à tout le monde.
Ça, c'est vrai. À quoi dites-vous non désormais? Ou à quoi êtes-vous fière d'avoir dit non?
Alors, je dis non au cancre-là. Et ça marche bien.
Comment vous les repérez, les cancres-là?
Oh, chacun sait comment on les repère. Vous voulez pas des noms, en plus. Je pense pas qu'on ait le temps. Et à quoi je suis le plus fière d'avoir dit non? Peut-être, c'est pas fière, mais ça a été un changement dans ma vie considérable. Quand C'est pas du tac au tac, je prends deux minutes pour vous le raconter, je peux. Justement, chez IMI, ça se passait extraordinairement bien, mais j'étais vraiment en désaccord stratégique sur le fait que, moi, j'avais engagé les équipes, on était en train de réaliser notre budget, et le contrat était assez simple, on a un budget, il est dur, on va le faire, on va se développer, et on fera pas de plan social dans l'année, puisque, malgré tout, le marché continue à baisser. Et en fait, je me souviendrai toujours de ce jour de janvier 2009, où je vais à Londres pour voir mes actionnaires, et je pensais qu'ils avaient compris, et en fait ils me demandent de faire un plan social, d'augmenter le budget, enfin bon.
Alors que les résultats étaient bons.
Alors que les résultats étaient excellents, on avait les meilleurs résultats de toutes les filiales, et là en fait je suis revenue en pleurant, comme quoi ça a atteint, hein, tout le trajet du retour, toute seule, et là j'ai appelé Agnès Touraine et je lui ai dit ça fait un moment qu'on discute et je vais aller chez Libé. Et tout ce qu'ils ont pu faire avec des méthodes, franchement, toutes... de multinationales à proposer plus d'argent, plus de... Quand vous pensez que c'est pas juste pour vos valeurs, l'argent ne compensera jamais les valeurs. Jamais, ça n'existe pas. Donc je suis très fière, non, mais vraiment contente d'avoir dit non à ce moment-là. Ça a changé ma vie. C'est ce qui fait que je suis devenue ce que je suis aujourd'hui. J'ai bien fait.
Votre pire moment de solitude professionnelle?
C'est celui-là. Vous êtes à début janvier, vous sortez des fêtes de Noël, c'est plutôt sympa. Vous revenez de Londres, il pleut, vous êtes dans le train, l'Eurostar. Et puis vous vous dites que vous allez quitter des gens que vous aimez, parce que pendant 12 ans, j'ai recruté, fait grandir des tas de gens que j'aimais, des artistes que j'aimais beaucoup. Mais vous savez que rien ne vous fera changer d'avis.
C'est plus possible.
Non.
Que souhaiteriez-vous absolument faire dans votre vie ?
Moi, j'aimerais prendre du temps. J'aimerais voyager au long. J'aimerais passer un mois à Venise, un mois à Rome, un mois. J'aimerais beaucoup. Ben, je ne sais pas si je pourrais le faire, mais j'aimerais avoir du temps. Voilà.
Si vous étiez ou aviez un pouvoir magique.
Franchement, aujourd'hui, j'aimerais bien décréter la paix dans le monde.
Il n'y a pas plus important. La musique qui vous donne de l'énergie.
Ça, c'est une jolie histoire aussi. C'est quand je suis rentrée chez Virgin à l'époque, je me souviens très bien. On est début 97 et mon président me dit « Tu connais Daft Punk ?» Personne ne connaissait Daft Punk en réalité parce que Daft Punk n'était pas connu à l'époque. Et en fait, c'est leur premier album, Around the World, qui est d'abord un très bel album, ensuite qui donne beaucoup d'énergie. Et ça a été l'histoire d'une épopée absolument extraordinaire de musique française qui s'exporte dans le monde entier. Ça, c'est très énergisant quand même.
Une passion ?
Moi, j'adore la mer. Il n'y a rien qui m'apaise ou qui me ressource plus que la mer. Et de temps en temps, j'ai besoin d'être apaisée un peu.
Ça me va bien comme réponse. Votre prochaine action pour plus d'égalité ?
On va vraiment développer cette école de la data et de l'IA parce qu'elle est à la fois éthique, c'est-à-dire qu'on forme à une IA éthique. Et ça, c'est très important. Vous qui êtes journaliste, très franchement, le problème des sources dans l'IA va être un problème très, très grave, enfin très, très sérieux en tout cas. Elle est inclusive, puisqu'elle est en alternance, et elle est paritaire. Et donc, c'est une petite initiative, bien sûr, mais encore une fois, si elle se multiplie dans tous les secteurs, partout, on aura plus d'intégration et plus d'inclusion. Et je pense que c'est, avec l'information de qualité, le nœud d'une démocratie.
Et vous avez montré que c'était possible d'avoir 50% de femmes dans une école d'IA. Votre mot-clé qui vous guide ?
Je peux en prendre deux.
Allez.
Je négocie un petit peu. C'est l'énergie et la générosité. Parce que sans la générosité, l'énergie peut avoir un impact tout à fait différent.
Merci beaucoup, Nathalie Collin. Ce que je retiens de notre échange, c'est l'énergie. L'énergie circulaire, la confiance, la proximité, les territoires qui ne sont pas en contradiction avec le numérique, mais qui peuvent au contraire aller ensemble. Merci à vous toutes et tous qui nous écoutez. Un immense merci à Yves Villaginès pour le portrait d'Agnès Touraine, à Ariane Godefroy, Camille Codor, Paul Berthiaud, Marie Jaworski. Merci aussi à Sandrine Dao, Zaya Cassel des Échos. Rendez-vous dans un mois pour un nouveau podcast Elles ont osé avec les Échos. Yves, rendez-vous dans un mois.
À dans un mois.
D'ici là, gardons précieusement en nous cette citation de Goethe qui correspond si bien à l'esprit de ce podcast. Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace a du génie, du pouvoir, de la magie.
Magnifique. Merci beaucoup.
Hold up. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.